yeah, oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Woo!
Le vent ne se rappellera-t-il jamais les noms qu'il a soufflés dans le passé? Et avec sa béquille, sa vieillesse et sa sagesse, il murmure non, ce sera les derniers. Et le vent crie Marie. Jimi Hendrix faisait souffler le son de sa Fender Stratocaster derrière ses mots doux en 1967 dans The Wind Cries Mary. Voilà ce que des millions d'adeptes de la reine des groupes qui prennent naissance dans des garages ou des caves poussiéreuses tentent chaque semaine de faire. La reine, c'est bien la guitare, de tous les prix, de toutes les couleurs, de toutes les formes, électriques ou acoustiques. La guitare s'est imposée comme l'instrument par excellence. Une forme d'instrument total, l'objet chéri et indispensable à toute formation ayant la volonté parfois obsessionnelle, il est vrai, de jouer du rock'n'roll. Il en a fait fantasmer du monde ce vulgaire manche à six cordes du grand Jimi Hendrix, qui enfant grattait déjà un simple balai en paille pour faire comme si, jusqu'à l'immense Django Reinhardt, qui avec ses trois doigts sauvait in extremis d'un incendie, démolissait avec une vitesse ébouriffante les riffs les plus improbables. La guitare nous renvoie également à notre propre culture occidentale. Elle est un objet phare et marqueur de notre civilisation productiviste, puisqu'il en existe de toutes les qualités fabriquées dans les pays asiatiques par des employés payés l'équivalent de quelques euros la journée. Objet à la fois devenu banal, populaire et surfabriqué, il n'en demeure pas moins être une source intarissable de rêves pour les kids brandissant une raquette de tennis ou un balai comme une guitare devant un miroir injustement trop réaliste. On a tous rêvé un jour d'être un héros, ou plutôt on a tous un jour voulu être Jimmy Page, Pete Townshend ou Buddy Guy, un guitare héros, et de faire pleurer Marie en jouant le vent.
After all the jets are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers clearly. A broom is drearily of the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very.
This will be the last, and the Jimi Hendrix.
The Wind Cries Mary.
Voilà, on a commencé cette nouvelle émission.
Bonjour à tous.
Oui, bonjour. The First Time Make the Blues avec un morceau classique, un standard quoi.
Oui, un standard. Tout le monde connaît. Ouais. Tout à fait. Ouais.
Et ouais. Donc, pour parler de la guitare, voilà, c'est.
Voilà, c'était l'idée de ce morceau aussi. C'était un des morceaux qui a révolutionné le son de la guitare. Ben, là, en l'occurrence, la guitare de Jimi Hendrix. Un morceau qui date de 1967.
Enfin, ouais, c'était une bonne introduction voilà, pour parler de la thématique de notre émission. Nous allons parler de la guitare. Car l'histoire de la guitare, elle est vraiment dense. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un instrument qui a plus de 4000 ans. Et en fait, il existe plusieurs versions. On ne sait pas trop d'où elle vient. Mmh. Enfin, tout le monde n'est pas forcément d'accord.
Mais selon les musicologues.
Ouais. C'est ça, ouais. Et en fait, il y a un instrument, le luth, là, dont je pense que vous voyez un peu comment il est. Ça ressemble un peu à une demi-poire avec un manche et puis ensuite la clé d'accordage qui est vraiment à 90 degrés par rapport au manche. Donc, apparemment la guitare ne viendrait pas de cet instrument là. Alors après on s'est dit bon alors peut-être que ça vient de la sitar. Alors la sitar c'est un instrument plutôt assez fin, il n'y a pas forcément de caisse de résonance, je crois qu'on doit pincer les cordes hein, sur la sitar.
Ouais, ça vient d'Inde aussi.
Ouais, voilà.
C'est originaire d'Inde.
Au Japon aussi on fait de la sitar.
Ah, au Japon, ouais.
Et alors bon, alors visiblement ça ne viendrait pas non plus de la sitar. On sait pas trop. Apparemment ça viendrait plutôt d'Asie, tout le monde n'est pas d'accord mais nous on va pas forcément se pencher là-dessus. On va essayer de parler de la guitare plutôt moderne.
Oui, tout à fait. Bah, c'est un thème notamment scientifique en anthropologie, puisque tu parlais de diffusion des techniques avec des résurgences d'instruments qui ressembleraient à la guitare de part et d'autre du globe. Et c'est un thème scientifique qui est celui de la diffusion de techniques où on s'aperçoit que...
De quoi, des instruments ?
Oui, voilà, et plus généralement de la technique. Quelle qu'elle
en
soit,
tant que telle. Okay.
En tant que telle, dans le sens où en Afrique et en Amérique, par exemple au 15e siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait le même niveau de technique, notamment par exemple ils utilisaient des flèches ou des choses comme ça, sans qu'il y ait eu de transmission orale ou de moyens de communication entre les deux continents. Voilà, c'est un peu, je pense, l'histoire de la guitare également. Voilà.
Alors, par contre, il y a une chose dont on est à peu près sûr, c'est que la guitare, elle viendrait des morts, donc voilà, visiblement du sud de l'Espagne. Ça serait au 10e siècle voilà, qu'elle aurait été amenée en Espagne par les morts. Et en fait, c'est dans ce même pays-là qu'un luthier, alors Antonio de Torres, hein, voilà.
Ouais, le fameux,
exactement,
le célébrissime.
C'est lui qui aurait donné la forme moderne à sa guitare voilà, à la fin du 19e siècle. Et puis ensuite, de là a découlé toutes les guitares qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais, d'accord, ouais, c'est intéressant tout ça, gros débat.
Ouais.
Bon,
on écoute un morceau quand
ouais,
même.
Voilà, on écoute un morceau, donc encore une fois, quand même, hein, pour faire écho à l'histoire de la guitare, puisqu'il s'agit de Robert Johnson et Crossroad, c'est Crossroad Blues, un morceau légendaire du blues, donc un morceau qui date de 1937. Juste pour dire que Robert Johnson, je m'en étais pas aperçu, mais il apparaît dans le film, enfin... Un acteur le joue dans le film Oh Brother. Et c'est le black là qui s'appelle Tommy. En fait, c'est un petit clin d'œil à Robert Johnson. Voilà, Robert Johnson, the greatest blues singer of all times. Excusez-moi.
Ouais, c'est lui vraiment qui est à l'origine du blues quand même. Enfin,
oui,
celui qui l'a.
Des premières stars du blues.
Voilà, c'est ça.
Et notamment parce qu'il disposait d'une technique assez impressionnante à la guitare, de picking, vélocité, une voix bizarrement haute pour un gros gabarit comme lui. Bah, on écoute ça, Crossroad Blues. I tried to flag around.
Everybody seems to know me, baby. Everybody pass me by. Silence is gone, bro, baby. Rising sun going down. I believe to my soul now, whole Bobby's backing down. You can run, tell my friend Willie Brown. You can run, tell my friend Willie Brown. Crossroad blues, my Lord, baby, I'm sinking down. And I went to the crossroad, mama, I looked east and west. I went to the crossroad, baby, I looked east and west. Thought I didn't have no sweet woman, baby, in my district.
Robert Johnson qui avait des mains mais gigantesques hein, quand même. Hein.
Ouais, vous pouvez voir les photos sur internet sur ou autre. Ouais, ouais, il avait des très grandes mains, ce qui expliquait cette technique absolument ahurissante. Il faut écouter la chose avec un casque et on s'aperçoit qu'il est tout seul. Il arrive à faire la basse et gratter en même temps, faire des petits riffs, des choses. Enfin, c'est quelque chose qui est absolument dingue, voilà, pour tout guitariste qui veut tenter de faire ça.
Ouais, et même Clapton d'ailleurs qui a fait un album.
Me and Mr. Johnson.
Voilà, ouais, il fait que des reprises de Robert Johnson. Mmh. Et en fait, on a regardé des vidéos sur internet, on les mettra sur le site de studiozef.fr. Et alors, vous écouterez Clapton, le morceau de Clapton, l'interprétation de Clapton et Robert Johnson. Enfin, franchement, on voit qu'il manque quand même peut-être quelques fois
il
des
manque quelque chose.
Voilà, Clapton, il n'y a rien à redire, hein, c'est un super guitariste, on est bien d'accord, mais bon là on voit que bah c'était Robert Johnson, c'était quand même un peu un magicien. Mmh. Et évidemment donc tout le monde, tous les guitaristes débutants ont leur idole quoi. Mmh. Ils se disent on veut jouer comme si on aimerait jouer comme ça, t'écoutes des morceaux, t'essayes de les reproduire. Et à ce sujet on vous propose d'ailleurs un extrait de film.
Voilà, c'était l'extrait du Péril Jeune, donc film de 1994 réalisé par Clapiche. Et c'est ce moment où l'acteur, donc Julien Lambroschini...
C'est celui qui a les lunettes,
voilà,
là.
Voilà, celui qui a les grosses lunettes, essaye, comme on l'a entendu, de jouer l'intro de « Go Home, My Babe » de 10 Years After.
Ouais, voilà. Il est dans sa chambre, il fait les notes péniblement et après il se dit bon, tiens,
il essaye.
Je vais écouter le morceau, voir si c'est pareil. Et puis en fait, on voit qu'il est pas trop sur le même tempo.
Voilà, il est complètement dépité et il s'allume une clope. On l'entend pas dans l'extrait. Mais bon, du coup, on va écouter du 10 Years After. Donc, grand groupe légendaire de Woodstock, notamment. Qui a fait Woodstock, qui avait enflammé Woodstock avec ce morceau justement, Go Home. Et voilà, groupe anglais fondé en 1966, Alvin Lee qui est mort en 2013, le guitariste. T'as de plus en plus d'informations sur le groupe, Melior?
Non, j'ai pas de plus en plus d'informations, non.
D'accord, bon on va écouter le morceau, c'est un morceau un peu psyché, pas forcément l'un des plus connus de 10 Years After, I'm Coming On. 1970, c'est sur l'album Watt, leur sixième album, déjà ils étaient assez prolixe et on écoute ça, c'est parti, 10 Years After.
Joseph
91.1
The first time I met the blues.
Là, c'était 10 years after avec l'excellent guitariste, le très connu guitariste Alvin Lee, qui jouait sur une Gibson ES-335. Et elle a assez caractéristique, sa guitare, puisqu'elle était finement décorée avec des signes Peace and Love, des choses comme ça. Enfin, ça fait partie des objets assez chers à l'histoire du rock'n'roll. Voilà.
Ouais, et donc lui il jouait sur une guitare électrique qui aurait été inventée et élaborée, les premières guitares électriques vers 1930, mais avant ça évidemment il a fallu passer de la guitare classique avec des cordes en fait qui étaient en peau d'animal, hein, c'est ça, hein,
elles sont en nylon mais en boyau de quelque chose il me semble à
l'époque.
Ouais,
voilà, c'est ça, ouais. Et en fait c'est voilà, il y a guitare classique et il a fallu il y a eu une transformation guitare folk et c'est un luthier allemand, voilà, qui s'appelait Christian Frédéric Martin. Alors après, on a...
Est-ce que tu peux le dire avec l'accent ?
Ah non, non, j'en suis totalement incapable. Et donc, ce luthier-là, allemand, il a émigré aux États-Unis en 1833. Et c'est lui qui aurait créé la guitare folk. Voilà. Donc, il a changé en fait les cordes en boyau ou en mettant des cordes métalliques. Et ça, c'est. Voilà, c'est,
ouais,
c'est.
Très certainement pour que ça sonne plus fort, à mon avis. Bon, c'est mon avis.
Et donc, la guitare folk, qui jouait avec une guitare folk, Timo, tu vas nous le dire ?
Bah, plusieurs artistes ont joué avec des guitares folk, mais là, en l'occurrence, Django Reinhardt.
Ouais.
Alors là, on est sur un autre type de guitare folk, c'est les guitares qu'on appelle de jazz manouche aujourd'hui. Donc c'est ces guitares avec une toute petite rosace, là, avec un tout petit trou, parfois ovale. Enfin voilà, c'est des guitares assez caractéristiques, avec un son caractéristique. Et là, je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Rythme Futur. On va pouvoir s'apercevoir de la dextérité du personnage. Donc Django Reinhardt, belge, voilà, j'ignorais complètement, pour moi il était français, ce qu'on appelle un manouche, hein. Il était de la communauté des manouches. Donc il est né en 1910 à Liberchy, donc en Belgique. Il est mort en 1953. Voilà, comme je le disais, hein, il est précurseur du style appelé par la suite aujourd'hui, comme on le nomme, jazz manouche. C'était un virtuose, voilà, quelqu'un d'assez exceptionnel. Il a notamment joué sur les deux types de guitares acoustiques et électriques, sur les demi-caisses jazz. Il a fait une tournée en 1946 aux USA qui ne s'est pas très bien terminée.
Ah ouais ?
Il était assez frustré de cette tournée. Suite à ça, il a carrément arrêté de jouer pour se consacrer à la pêche, à la peinture et à quelque chose d'autre. Enfin, il a complètement
annulé. Il a trouvé d'autres amours, alors.
Voilà, il avait trouvé autre chose. Mais c'était quand même un peu une attraction. Hein. C'était une attraction. Bon, ben, on écoute ça. Django Reinhardt, Rythme Futur.
Voilà, c'était Django Reinhardt, Rythme Futur. D'ailleurs, Django Reinhardt qui avait une technique bien particulière parce qu'en fait, il lui manquait deux doigts. Sa roulotte avait pris feu et en fait, du coup, bah, voilà, il avait perdu l'usage de deux doigts et donc il a dû réadapter en fait, bah, voilà, sa main pour jouer d'une nouvelle manière.
Mais en plus, c'était la main gauche, c'était ça le problème.
Hein. Exactement, ouais. Et les personnes qui sont fans de Django Reinhardt, elles font exprès de s'entraver ces doigts-là pour jouer, tu vois, exactement comme lui, quoi, celle qui pousse au vis. Quoi.
Bah, pourquoi pas.
Voilà.
Pourquoi pas. Donc on va parler, voilà, donc il y a des guitares électriques et des guitares acoustiques, on l'a dit plusieurs fois. Mais dans les guitares électriques, il y a deux types de guitares. Donc il y a des guitares creuses, fréquemment, c'est celle avec les ouïes, là. Je ne sais pas si vous voyez, de haut en bas.
Donc,
de
il y a une guitare. Caisse de résonance, en fait.
Voilà, il y a une caisse de résonance. On les appelle demi-caisses. C'est celles qui sont utilisées dans le jazz, qui sont assez larges, hein, à peu près de la largeur d'une guitare acoustique. Et les quarts de caisse de jazz, blues, pour jouer du jazz.
Et qui sont quoi, plus...
Elles sont un peu plus fines. C'est notamment la fameuse guitare de Alvin Lee, qu'on a écouté tout à l'heure, ou B.B. King, enfin, et plein d'autres. Et les guitares pleines, qui sont appelées solid body. Ensuite, voilà, il y a des micros qui sont présents sur ces guitares électriques. Donc souvent, voilà, qu'est-ce que c'est un micro de guitare électrique ? C'est un ou plusieurs aimants entourés de bobines de fils de cuivre qui, proche de la vibration des cordes métalliques, créent un champ électromagnétique. Et ce signal électrique produit donc est envoyé par l'intermédiaire d'un câble à un amplificateur. Voilà, c'était pour un peu résumer.
Un ampli.
Voilà, un ampli, comme on dit. Donc voilà, les guitares électriques ont été mises au point pour éviter les larcènes qui sont fréquemment, ce qui est fréquemment le cas lorsqu'on met un micro directement devant une guitare acoustique. C'est dur de sonoriser une guitare acoustique quand on veut la faire sonner fort à travers une sono ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'a été mise au point les guitares électriques avec ces micros-là, voilà, assez spécifique, ce qui permet de faire sonner assez fort la guitare.
Ouais, parce qu'avec en fait le larcène, on a tous vu, même dans les mariages, là, quand il y a quelqu'un qui tient un micro, hop, il se rapproche de l'ampli, du haut-parleur, ça fait un son énorme. Mmh. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est du coup le micro du mec qui parle. Mmh. Il émet un son dans l'ampli et le micro repique le son de l'ampli.
Voilà,
donc en
ça.
Fait, du coup, ça fait un brrr. Enfin voilà, la machine ne comprend plus rien. Enfin, ils comprennent. Enfin voilà, ça.
Voilà, c'est ça. Et grâce aux guitares électriques, on n'a pas ce phénomène-là.
Ouais, parce
en
qu'en
tout
fait,
cas, on
fait, le voilà. Quand même, le micro qu'il y a sur une guitare électrique, là, on voit que ça ressemble en fait à une petite pastille de métal finalement.
Ouais.
Elle ne peut pas recapter le son de l'ampli.
Si, c'est possible pour les bourrins qui jouent très, très, très fort.
Ah ouais, bon.
C'est possible, mais moins quand même.
Ouais.
Mais moins. Donc voilà, et notamment les guitares électriques solid body. Donc ça veut dire qu'elles sont pleines. La guitare est pleine, elle est en bois plein. C'est ces guitares-là qui dominent le marché depuis les années 50, notamment grâce à Fender, qui créa deux légendes de la guitare avec la Telecaster et la Stratocaster. Donc la Telecaster qui était fréquemment utilisée, notamment par Muddy Waters, par exemple, ou la Stratocaster, la guitare de Jimi Hendrix. C'est la plus copiée au monde. C'est la guitare électrique la plus connue.
Et qu'est-ce qu'elles ont comme particularité, ces deux guitares, alors
C'est les particularités d'avoir un manche, une guitare pleine, c'est qu'elle prend beaucoup moins les larcènes. Ça permet de faire des sons.
Ouais, mais
qui
la
sont
différence entre
dingues.
Les deux, parce que tu vois, il y a des mecs spécialistes qui écoutent, qui disent ah ouais, non, ça c'est une Stratocaster, ça c'est une. Tu vois.
Bon, c'est le son qui est différent.
Voilà, c'est le son. Enfin...
C'est le son qui. Il y a un grain qui est un peu plus présent sur la Telecaster, par exemple, qui fait que, voilà, notamment c'est utilisé dans le blues, il y a un grain particulier, il y a quelque chose de particulier. Après, je suis peut-être pas assez spécialiste pour pouvoir en parler. Je suis pas spécialiste Fender. Et aussi, voilà, il y a Gibson, la Gibson Les Paul aussi qu'il faut. C'est vraiment les trois guitares légendaires, Telecaster, Fender, Telecaster, Stratocaster et Gibson Les Paul, qui a été créé par un guitariste inventeur, Les Paul.
Normal, il a donné son nom à la guitare.
Qui travaillait chez Gibson. Enfin bref. Et voilà, les modèles solid body, sans parler de la différence entre Telecaster et Stratocaster de chez Fender, les modèles solid body, ils ont été. C'est vraiment les musiciens hein, qui les ont développés et qui ont été demandeurs parce qu'ils se sont rendus compte que le son était complètement différent et que. Un exemple, il y a possibilité de jouer sur le tirant de cordes, de mettre des cordes qui sont beaucoup plus souples et donc faire des solos, des choses assez folles, tirer les cordes comme on peut l'entendre chez Hendrix ou plein d'autres musiciens. Mais voilà, ben, on va parler d'une guitare assez célèbre.
Ouais, c'est la, musique, en effet,
pour pas
c'est
dire
la
légendaire.
La Lucille de B.B. King. B.B. King, évidemment, un américain roi du blues. Hein, tout le monde le connaît. En tout cas, si vous écoutez nos émissions de temps en temps, vous avez pu le découvrir. Si vous ne le connaissiez pas, en tout cas, nous, on est fans de B.B. King. Et puis, en fait, lui, il avait une guitare qui s'appelait Lucille. Alors, c'était pas une guitare qui s'appelait Lucille. Hein. Il en a toutes celles qu'il a eues, il les a appelées Lucille. Mmh. Et en fait, c'est une anecdote assez rigolote.
C'était un modèle de chez Gibson.
Exactement, voilà. Mmh. Et en fait, l'histoire est rigolote. Enfin, pas tant que ça, mais bon, elle mérite d'être racontée. En fait, lors d'un concert dans une petite salle, en fait, il y a eu un incendie. Et pourquoi il y a eu un incendie ? Parce que c'était en hiver, il faisait froid, et ils mettaient un poêle à kérosène au centre en fait de la pièce, comme ça les gens pouvaient danser, ils avaient chaud, ils étaient contents. Et puis il y a deux mecs qui se sont mis à se battre. Et puis ils ont renversé le poêle, évidemment, bon, ça fait ce qu'on voit un peu dans les films, là, tu vois, le carburant, qui est sur le sol, clac, ça fait une traînée de feu, etc. Tout le monde sort, et là, B.B. King sort aussi, il se dit, eh mince, flûte, j'ai laissé ma guitare à l'intérieur.
Zut.
Il court, tac, il va chercher sa guitare, il ressort, ça c'est lui qui l'a raconté, hein. C'est une anecdote vraie. Et d'ailleurs, on mettra l'extrait de son interview où il raconte ça sur le site de studiozef.fr, sur notre page. Et donc, en fait, voilà, il va récupérer sa guitare. Et puis le lendemain, il se dit, pourquoi il y a eu une bataille ? Pourquoi ces deux mecs se sont battus et ont renversé le poêle ? Ils se sont battus pour une nana qui s'appelait Lucille. C'est tout simple.
D'accord.
Donc, du coup, lui, il s'est dit, voilà, en hommage à ce malheureux événement.
Alors,
voilà,
il dit aussi.
Exactement. Et je vais appeler ma guitare Lucille. Et puis, après, il en a eu, 15, 16, 17, 18, 19, 20, voilà. Il les a toutes appelées Lucille.
Bravo, tu racontes très bien, meilleur.
Exactement, je te remercie. Et donc, évidemment, on écoute du B.B. King, hein. World What I Love, voilà, c'est un morceau des années 50.
Enregistré dans les années 50 et créé certainement par Willie Dixon, l'omniprésent.
À l'ancienne, hein, quand même.
Ouais,
hein.
C'est assez vieux, ouais. Ça doit dater des années 50 ou quelque chose comme ça. C'est du bon vieux B.B. King, bien à l'ancienne.
Et oui, et d'ailleurs, on va passer à Lucky Peterson qui, lui, a un jeu quand même similaire un peu à B.B. King. Hein.
Ouais.
Si, ça ressemble un peu.
Je dirais plus du Buddy Guy, c'est quelqu'un qui envoie énormément sur scène, qui donne beaucoup. qui est un jeu à 100 000 à l'heure. Après, oui, peut-être un BB King des années, quand il était jeune, peut-être.
Ouais. Oui, et donc ce mec-là, lui, il a commencé par jouer du clavier, de l'orgue, il a baigné dans le milieu musical dès sa plus tendre enfance, en fait.
Il était fils, donc il est né à New York en 1964, il était fils d'un patron de club de blues, et ce club de blues a vu passer absolument tout le monde, hein, Muddy Waters, tous les grands de l'époque, en tout cas, de ces années-là.
Coco Taylor.
Voilà, Coco Taylor,
grand
notamment.
Grand et grande, hein, d'ailleurs.
Voilà, gros, grand et
gros.
Gros pour BB King. Pardon. Et il joue toujours, effectivement, il joue de l'orgue, il est pluri-instrumentiste. J'ai eu la chance de le voir sur scène il y a quelques années. C'est un showman absolument exceptionnel.
Ouais.
Il a pour habitude de faire des solos, mais qui durent 10 minutes dans le public. Il descend avec sa guitare et joue dans le public, comme ça, devant les gens.
Cool.
J'ai vu des vidéos sur Internet où il est sur les bars. Il monte sur le bar, il joue, il fait ses solos. Enfin, c'est un showman absolument exceptionnel. Je vous conseille d'aller le voir. Bien que des fois c'est un peu lourd, hein, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de solos. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vaut le coup.
Ouais, et c'était quand même aussi quelqu'un qui était attaché à ses racines, qui avait envie d'en parler, en fait, de ses origines, aussi sa couleur de peau. C'est un peu.
Lucky Peterson, ouais. Hein. Oui, probablement, ouais. Ouais, probablement.
Ouais, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, on va vous passer un morceau qui s'appelle It's Because I'm Black. Un morceau que moi, j'avais découvert, mais plutôt en mode reggae.
Oui, c'est beaucoup joué dans le reggae, notamment Tiken Jah Fakoly, qui a fait une reprise.
De ce morceau-là,
récemment,
ouais.
Oui, c'est un morceau qui est très connu dans le reggae, alors qu'il s'agit d'un morceau qui est composé par un certain Silt Johnson, un Américain en 1969, en plein dans la lutte un peu pour les droits, etc. Enfin, dans une Amérique politisée de ces années-là, et qui était un bluesman. Initialement, c'est un morceau qui vient du blues.
Et ben alors, c'est parti. Hein, Lucky Peterson, It's Because I'm Black.
Un autre grand guitariste.
Damn brown shades of my skin. They splash against my hollow bone, really rocks my soul. Looking back over my false dreams, I once knew, wondering why my dreams never came true. Because I'm black. Somebody tell me, what can I do? Oh Lord. Something is holding me back. Is it because I'm black? City. Oh Lord. Mama, she worked so hard, y'all, to earn every penny. Oh Lord. Something is holding me back, y'all. Is it because I'm black? Yeah.
Somebody tell me, will I survive? I wanna know, or will I die? Somebody, somebody, something is holding me back. If it be cause of life,
Joseph
91.1
The first time I met the blues.
C'était une version de It's Because I'm Black de Lucky Peterson. Bon, on va continuer sur un autre grand guitariste qui est assez ignoré, du moins on le reconnaît pas vraiment comme ça dans les livres, tant son talent et sa notoriété ont absolument tout défoncé. On peut présenter les choses comme ça puisqu'il s'agit de Frank Zappa. Voilà,
le lunaire Frank Zappa, hein, parfois.
Le lunaire Frank Zappa, mais le génial Frank Zappa. Compositeur, acteur, réalisateur, écrivain. Enfin, je crois qu'il a tout fait.
Il a touché à tout.
Ouais, il a touché à tout. Frank Zappa, que dire sur lui Smoke on the Water, 1971. La chanson, vous connaissez la chanson de Deep Purple, c'était lui qui jouait quand à Montreux, donc sur le Smoke on the Water, voilà, c'est le lac de Montreux, c'est ça, hein, qui était complètement embrumé par la fumée qui a été occasionnée lors d'un concert de Frank Zappa au festival de Montreux. C'est tout simplement un spectateur, alors on était dans 71, les années 70, hein, la folie, c'est un spectateur qui a tiré une fusée de détresse dans la salle. Tout va bien. Voilà.
Ouais, voilà, comme pour B.B. King, toujours des accidents un peu bêtes.
Ouais,
quoi.
Voilà. Et c'était en fait les Rolling Stones qui enregistraient dans le camion, les Rolling Stones, Deep Purple, qui enregistraient dans le studio mobile des Rolling Stones à Montreux. Et donc, quand ils ont vu ça, ils ont eu un flash et hop,
ils ont été
Smoke
inspirés.
On the Water. Ouais, voilà.
Ah, ok.
Voilà, Frank Zappa. Voilà, j'ai une citation de lui qui le résume parfaitement. L'esprit, c'est comme un parachute. Il ne fonctionne pas s'il n'est pas ouvert. Voilà, la
classe. Au moins, c'est clair.
Voilà.
Et d'ailleurs, Zappa, pour raconter encore une fois une petite anecdote sur les guitares qu'il a pratiquées, il aurait récupéré en fait une guitare que Jimi Hendrix a brûlée lors d'un concert à Miami. En fait, c'est un Rhodi. Donc des personnes qui installent tout le matos pour les concerts, qu'il aurait récupéré, qu'il aurait refilé, moyennant finance sans doute. Et lui, il l'a fait rénover, en fait, réhabiliter, enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Et en fait, il a joué avec un temps, il y a notamment une chanson, je ne sais plus trop laquelle, mais dans un album où il joue avec cette
il
guitare.
Il joue avec la guitare.
Ouais, d'Hendrix, là, qui avait été brûlée. Et puis en fait, après, il l'a refilé à son fils, voilà, et puis lui, il a continué avec une multitude d'autres de jouer avec une multitude d'autres guitares.
Ouais, son fils qui continue à jouer son œuvre fréquemment,
si
avec les anciens du Mother of Invention. Voilà, c'est ça.
Et c'est quoi Mother of Invention?
C'était son groupe qu'il suivait. En fait, au départ, c'était Mother. Vous imaginez la suite, Motherfuck, enfin bref, pas de... Voilà, et c'est sa maison de disques qui lui a poussé à choisir un autre nom de groupe. Donc voilà, c'était Frank Zappa et les Mothers of Invention.
Et bah si, il est grand temps d'écouter donc Frank Zappa, Cosmic Debris. C'est un morceau de 1974 sur l'album Apostrophes.
The Mystery Man. He said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his breath.
diving with that cosmic debris. Now I thought it was a razor and a can of foaming goo, but he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do with the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said you might not believe this little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said, and ram it up your snout.
But I got a crystal ball,
he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was mean. I said some mumble jumble then, I told him he was going to sleep. I robbed his ring, rocket watch, and everything else about. I had that sucker hypnotized, he couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future plan, as long as he was hanging around. I said,
the price of meat has just gone up, and your old lady has just gone down.
Now, is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you could make more money as a butcher? So don't you waste your time on me.
Don't waste it.
Les débris cosmiques de Frank Zappa, qui jouait sur guitare Gibson SG, sur une Gibson
entre
SG.
Autres.
Voilà, entre autres, mais quand même beaucoup sur Gibson SG. Voilà, je peux me faire plaisir. C'est une émission consacrée aux guitares. Vas-y, j'y vais.
Mais Zappa, on voit quand même que c'est hyper fin, quoi.
Oui, oui, c'était quelqu'un de très méticuleux, très consciencieux, très intellectuel. Il était satiriste avant tout, également. C'est-à-dire que il s'est moqué de tout le monde. Des super groupes, des Who de l'époque, etc., de tous les puissants. C'était quelqu'un de très fin. Enfin, moi, j'aime beaucoup son esprit. Après, musicalement, c'est vrai qu'il a, comme tu disais tout à l'heure, il a écrit des choses assez lunaires. Il a fini, il me semble bien, hein, par écrire pour des orchestres symphoniques, tellement son génie était immense, avait besoin de
s'exprimer.
Voilà, de s'exprimer voilà. Encore quelqu'un peut-être qui nous a quittés encore trop tôt, voilà, qui est mort d'un cancer en 1993.
Moi, j'ai quand même coutume de dire que pour là, ce morceau-là de Zappa, franchement, ça passe, mais il y en a d'autres, tu souffres un peu avant de voir, tu vois, avant d'apercevoir une lueur et un passage que tu comprends, quoi, dans les morceaux, tu
mais
vois.
Mais c'est très particulier, il y a, du coup, il a un public, Zappa, il y a...
Des geeks, en fait.
des geeks, je sais pas, non, quand même pas. Enfin, je sais pas, mais c'est estampillé Zappa. Il a un public Zappa, il y a un style Zappa, il y a un phrasé Zappa. On peut s'apercevoir, notamment dans le morceau qu'on vient de passer, une manière de parler, une manière de faire. Voilà, c'était quelqu'un qui avait son monde. Et c'est pas mal, moi j'aime beaucoup.
Et puis après Zappa, c'est Roy Buchanan qui est pas non plus... aujourd'hui non plus ultra connu.
Non,
quoi,
c'est pas quelqu'un de connu. Non.
Un guitariste, un bluesman blanc, virtuose aussi de la guitare. Lui, il avait coutume en fait de faire pleurer sa guitare, on dit, parce que tu vois, il jouait des accords quand même ultra aigus. Donc on peut s'imaginer, enfin un truc...
Ouais, des solos. Ouais,
ouais, exactement. Exactement. Et en fait, lui, il a appris la guitare. Ses parents l'ont mis en cours de guitare. Et puis bon, visiblement, ça n'a pas été un franc succès, ça ne le plaisait pas trop. Il préférait jouer à l'oreille. Et puis bon, voilà, à partir de là, il a développé toute une technique. Et puis, à l'époque, dans les années 60, il était quand même reconnu par ses pairs pour être un guitariste vraiment hyper, hyper bon, quoi.
Assez particulier. Donc on écoute Roy Buchanan, Five String Blues. C'est un morceau qui nous a été indiqué par un ami... On lui fait une bise. Hein,
Psychose 83.
Psychose 83. c'est son pseudo. Sur Internet, quand il veut pas voir son nom apparaître. Bah, on écoute ça, Five String Blues. C'est un morceau qui est sorti en 1973. Il avait coutume de jouer sur une Fender Telecaster, mais je crois que ce morceau,
c'est pas le cas.
C'est sur une Gibson Les Paul, il me semble. Ça.
Thank you. This is my final plea. Yes, Jesus, this is my final still begging you, don't let the devil get the best of me.
Joseph
91.1
The first time I met the blues.
Comme à chaque fois, je vais répéter la même chose. Donc cette émission s'achève. On approche l'heure de diffusion hein, de The First Time I Met the Blues. Alors comme d'habitude, tous les morceaux, la playlist est accessible
absolument
sur studiozef.fr, sur la page de notre émission The First Time I Met the Blues.
N'hésitez pas à consulter les autres émissions.
Ouais, podcast télé,
il y a des
parce que
très bien. Ouais.
Si vous partez en vacances, hein, hop, on les podcasts, on les met sur sa clé et ensuite on les met sur son
voilà,
poste.
Toujours
et
pareil.
On écoute,
si vous ennuyez au travail ou toujours pareil. Dans la rue, si vous faites du camping, si ça marche sur les smartphones, etc., etc., n'hésitez pas. Voilà. Ben, c'est fini, donc cette émission sur les guitares. J'aimerais refaire une dédicace à tous les apprenants, ceux qui font de la guitare, ceux qui jouent dans des groupes. Voilà.
Ne vous découragez pas.
Ne vous découragez pas. Comme on a écouté dans
le
morceau du Péril Jeune tout à l'heure. Voilà. Et on se dit à bientôt.
Allez, ça marche. Ciao.